Attention pour le décompte final.
3, 2, 1, 0.
Le vulgarisateur de l'espace.
Décollage.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce troisième numéro du Vulgarisateur de l'espace, votre émission bimensuelle consacrée au spatial. C'est Jean-François à l'animation, accompagné d'Honorine à la technique et à la playlist musicale. Bonjour Honorine.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Sans plus tarder, les titres de cette émission. Au programme, une interview de Laurent Thierry, spécialiste histoire du musée et planétarium de la Coupole, centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais situé près de Saint-Omer. Cet ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale abrite en son dôme les premières fusées V1 et V2. Une chronique ensuite sur l'appel du cosmos. Il faut savoir qu'au commencement, il n'était qu'une poignée d'écrivains et de scientifiques à croire au voyage intersidéral. Rétrospective donc de la genèse de l'exploration spatiale. Nous terminerons par un documentaire consacré à Jean-Loup Chrétien, le premier français et européen à être allé dans l'espace. Mais tout d'abord, votre rubrique Actu, le prix Nobel de physique 2020, est un prix d'astronomie. Il revient pour une part à l'astrophysicien britannique Roger Penrose et l'autre moitié à l'allemand Rengar Genzel, ainsi qu'à l'américaine Andrea Ghez. On vous en parle tout de suite après le jingle, le vulgarisateur de l'espace. Passe numéro 3, c'est parti. Le prix Nobel de physique récompense cette année les pionniers et la pionnière des trous noirs supermassifs. L'existence de trous noirs est suggérée, on le sait, par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. En 1965, ce sont les calculs de Roger Penrose sur la formation des trous noirs qui confirment cette idée. Il démontre que c'est une conséquence de la relativité générale et que la plupart des galaxies logent en leur centre un trou noir supermassif. Mais la difficulté avec ces objets, c'est que la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc les télescopes ne peuvent pas les observer directement puisqu'ils n'émettent en réalité pas de lumière. Et c'est là que Reinhard Genzel et Andrea Ghez interviennent dans les années 90 et les années 2000. Ils sont les premiers à apporter des preuves indirectes de l'existence de Sagittarius A, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée. Un prix Nobel donc bien mérité, d'autant plus rare que Andrea Ghez n'est que la quatrième femme à recevoir ce prix depuis sa création en 1901. Il y a 2 ans, la physicienne canadienne Donna Strickland a obtenu le Nobel de physique. Et avant elle, 2 femmes seulement l'ont remporté. C'était en 1963 avec Maria Goeppel-Mayer et en 1903 avec Marie Curie. Voilà pour cette page actu, vous êtes bien à bord de votre émission bimensuelle, le vulgarisateur de l'espace. Honorine, que nous proposes-tu d'écouter dès à présent ?
Je vous propose un classique, celui de David Bowie et le titre Space Oddity, sorti sur ce même album en 1969.
To Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control to Major Tom.
8. 7. 6.
Major Tom, you've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
C'était Space Oddity par David Bowie, sorti sur l'album Space Oddity en 1969.
Merci Honorine, place maintenant à votre reportage. Thierry, spécialiste histoire du musée et planétarium de la coupole de Saint-Omer, nous a consacré une interview au sujet des premiers missiles balistiques allemands, les V1 et V2, missiles qui constituent les premières vraies fusées à carburant liquide au monde. Pensés durant la Seconde Guerre mondiale, ils seront le point de départ de tous les lanceurs à application civile, que ce soit pour le programme spatial lunaire américain Apollo ou plus tard le programme européen Ariane. Nous sommes au musée de la coupole, centre historique et planétarium, juste à côté de Saint-Omer, pour retracer la genèse des programmes spatiaux, en particulier américains. Et je suis en compagnie de Laurent Thierry, historien ici à la coupole. Alors, il faut recontextualiser un petit peu l'histoire du lieu. En 1942, Werner von Braun crée les premières V1 et V2. Werner von Braun, c'est évidemment l'ingénieur de ces premiers missiles balistiques. Et finalement, dans ce lieu, on se retrouve à la croisée entre Peenemünde, où était assemblée une grande partie des V2, et puis également ici, le nord de la France.
Alors oui, mais il y a un troisième lieu que vous avez oublié. D'abord, en 1942, c'est le premier tir réussi d'une fusée V2, mais il aura fallu beaucoup d'années de recherche pour pouvoir les mettre au point. Peenemünde était le premier lieu destiné en effet à la production de ces fusées V2, mais surtout, et là où on revient à l'implication criminelle de Werner von Braun dans cette histoire, c'est la création d'un camp de concentration avec l'utilisation d'une manœuvre forcée pour assembler ces fusées à partir de 1943, et ce camp s'appelle le camp de Andorra. 20 000 déportés sont morts pour fabriquer ces fusées. Et c'est là toute la responsabilité de Werner von Braun dans ce drame et dans ce lien entre l'histoire et la science.
Quelle est l'histoire de ce lieu très précisément, l'assemblage de V2 ?
Alors à la coupole, non. L'objectif n'était pas ici d'assembler ces fusées. Hein. Ces fusées étaient, comme je vous le disais, assemblées dans les tunnels de Dora. Dora, c'est en Allemagne, c'est en Thuringe. C'est à 80 km du camp de Buchenwald. Le camp de Buchenwald sert de réservoir de main-d'œuvre pour envoyer ces déportés. Et vous avez à peu près 9000 Français qui sont passés par ce camp. Et un peu plus de la moitié est mort justement à la fabrication de ces fusées V2. Ici, à la coupole, il ne s'agit pas de les assembler. Elles devaient arriver, hein, puisque le site n'a jamais été opérationnel. Elles devaient arriver d'Allemagne sur des trains, déjà assemblées, et devaient être tirées ici. Ici, on est sur un site de tir, pas un site d'assemblage.
Donc peut-être revenir sur l'histoire de ce lieu de la coupole. Pourquoi ce lieu a été choisi donc, pour la construction de ce dôme de tir de V2 ?
Pour les Allemands, la mise au point de ces fusées, hein, en octobre 1942, il s'agit de choisir des lieux adéquats pour pouvoir tirer ces fusées. Et il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en compte. D'abord la portée. La portée de ces fusées, c'est un peu moins de 300 km. L'objectif clair pour les nazis, pour Hitler, c'est de frapper l'Angleterre pour la contraindre à arrêter la guerre. Donc il faut trouver des lieux qui sont situés dans un arc de cercle à moins de 300 km de Londres. Donc très vite, la région de l'Audomarois va être choisie. Le premier site choisi n'est pas la coupole. Hein. Les Allemands vont entamer la construction d'un bunker beaucoup plus classique à quelques kilomètres d'ici, à Hyperlake. Mais ce site bombardé par les Britanniques à la fin du mois d'août 1943 oblige les Allemands à changer de stratégie, surtout de technique de construction. Donc ils viennent ici. Ici, on est sur une ancienne carrière de craie qui était exploitée par une famille, avec des galeries qui sont déjà creusées, et les Allemands vont réutiliser ce système souterrain et commencer par construire ce dôme gigantesque de béton armé, 70 mètres de diamètre, 55 000 tonnes de béton, qui va permettre de protéger des attaques aériennes pour pouvoir procéder à la construction de ce site souterrain.
Et combien de kilomètres ou de mètres de galeries ?
Alors, l'objectif premier était la réalisation de 2 km de galeries souterraines et à peu près 1,5 km ont été effectivement creusés avant que le site ne soit abandonné à la fin du mois de juillet 1944.
Donc bombardé, on l'a vu dans l'exposition, il y a pas mal de pièces. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur certaines pièces qui sont exposées dans ce dôme de la coupole ?
Alors, la pièce principale, je dirais, qui est un élément exceptionnel ici en France, puisque c'est le seul exemplaire original présenté en France, c'est cette fusée V2 hein, qui permet aux visiteurs de prendre conscience à la fois de l'avancée technologique qu'a représenté la réalisation de cette fusée, et puis surtout c'est la masse qu'elle représente, puisque une fusée V2 donc, qui a été assemblée au camp d'Ora, mais qui fait partie de celles qui ont été récupérées par les Américains et emmenées aux États-Unis dans le désert du Mexique en 1945, avait été redonnée à la coupole dans les années 90, restaurée par une entreprise locale afin d'être exposée ici sous le dôme. Donc c'est vraiment l'élément majeur de cette exposition. Mais on trouve aussi des objets plus anodins aussi du quotidien sur l'occupation dans la région. Aussi un groupe électrogène qui était installé dans les galeries et qui servait à la production d'électricité pour le site. Enfin, divers objets comme ça qui permettent de se remettre vraiment dans le contexte de l'époque.
Nous sommes toujours avec Laurent Thierry, historien de la Coupole, un centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais qui se situe à Elfaux, près de Saint-Omer. On évoque avec lui l'histoire de ce lieu, la Coupole.
Par rapport au V1 et au V2, est-ce que vous pouvez expliquer la transition entre les deux et comment on est arrivé au V2 qui a presque pu être lancé d'ici vers Londres ?
Alors je dirais que c'est pas vraiment une transition, c'est vraiment deux projets distincts et parallèles. La fusée V2, c'est vraiment le premier missile balistique. On est vraiment sur une fusée avec un propulseur, un engin qui va sortir de la stratosphère, qui a besoin d'un carburant d'oxygène liquide pour fonctionner en dehors de la stratosphère, qui est mis au point par les ingénieurs nazis à Peenemünde dans la section liée à l'artillerie. La bombe volante V1, c'est un autre projet qui est mis en œuvre par l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Là, l'idée, c'est de reprendre reprendre des projets qui avaient déjà été lancés avant-guerre et de créer un avion sans pilote. Mais là, on n'a pas un moteur de fusée, on n'a pas un propulseur, on a un moteur à explosion mécanique, hein, qu'on appelle un turbopropulseur, et ce sont vraiment deux projets parallèles. L'avantage de la bombe volante V1, c'est que par rapport à une fusée V2, il est beaucoup moins perfectionné, donc il coûte beaucoup moins d'argent à fabriquer, beaucoup moins de temps à fabriquer, il nécessite beaucoup moins de matières premières, donc c'est beaucoup plus facile de le produire, et c'est aussi pourquoi il sera opérationnel avant la fusée V2 et il pourra être tiré depuis le nord de la France à partir de juin 1944.
Alors on voit le fil conducteur, c'est ce personnage de Werner von Braun. Donc cet ingénieur qui est nazi, on voit en 1945 qu'il se rend aux Allemands et au bout de 10 ans après, il a la nationalité américaine. Comment ça se passe, ces 10 ans de transition, je dirais, qu'est-ce qui se passe pour aller passer de l'une à l'autre?
Alors, Werner von Braun, c'est un nazi, vous l'avez dit, il a un grade dans la SS, ce qui n'est pas anodin, et c'est un opportuniste, c'est-à-dire qu'évidemment, en 1945, au moment de la chute du Reich, il a bien compris que ce ne sont pas les nazis ou les Allemands qui vont lui permettre de financer ses projets, y compris des projets civils, hein, d'envoyer des hommes dans l'espace, et que la puissance montante et qui lui permettra de réaliser ses projets, c'est évidemment les Américains, hein, qui sortent grande puissance de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il va, avec ses collègues de Peenemünde, il va préparer et anticiper sa reddition aux Américains. Il faut savoir qu'en face, les Américains aussi, ils cherchent ces ingénieurs, ces scientifiques, parce qu'ils veulent récupérer cette technologie. Ils sont très très largement en retard sur ces questions de lanceurs de missiles. On entre dans la période de la guerre froide, on sait très bien que ce lanceur, avec la mise au point en plus de l'atome, hein, de la bombe atomique dans le même contexte, va être un des éléments majeurs de l'après-guerre et de la période très tendue entre les deux blocs qui va naître de l'après-guerre. Donc Werner von Braun se rend aux Américains en mai 1945 et il négocie sa reddition pour pouvoir partir avec ses collègues, avec leur famille et avec une quantité importante d'archives qui lui permettra de développer ses programmes aux États-Unis. Les Américains vont d'abord l'utiliser dans le cadre des programmes militaires pour mettre au point les lanceurs et les missiles. Là encore, à partir de la fusée V2, on emmène des fusées V2 qu'on va tirer dans le désert du Mexique pour comprendre et capter cette technologie. Et puis, en 1961, quand le président Kennedy, à la suite des différents revers rencontrés par les Américains dans la conquête spatiale face aux soviétiques, Kennedy va confier à la NASA le programme d'envoyer, le projet Apollo, d'envoyer les premiers Américains sur la Lune. Et c'est cette équipe, l'équipe de Werner von Braun, il va devenir directeur de la NASA, qui va être chargé de ce programme Apollo et d'envoyer les premiers Américains sur la Lune en 69.
Alors, Werner von Braun quitte la NASA en 1977 avec le début des programmes de navettes. Mais également, donc à la même époque, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, du côté soviétique également, on récupère des V2 pour faire des expérimentations, en particulier avec un personnage, Sergueï Korolev.
Tout à fait. Les différentes nations alliées victorieuses sont allées chercher les cerveaux nazis qui avaient contribué aux avancées technologiques. C'est vrai dans le domaine de la conquête spatiale, mais c'est aussi vrai dans l'aéronautique, dans la médecine, dans la police, dans la recherche criminelle. Il y a énormément. Et les Français aussi ont contribué, certains ingénieurs, je pense à Heinz Bringer, qui est devenu Henri Bringer, qui a mis au point les différents moteurs des avions à réaction français. Enfin, toutes ces puissances ont essayé de capter cette technologie. Et toutes ces puissances ont contribué à effacer ce passé de criminel, de nazi, de ces différents ingénieurs et scientifiques, parce que l'important sur le moment, c'était d'avancer technologiquement, mais évidemment de masquer tout leur passé criminel.
Nous sommes toujours avec Laurent Thierry, historien de La Coupole, un centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, situé à Elfaux, près de Saint-Omer.
Dans la muséographie, il y a des espaces rouges qui plongent un peu dans l'horreur des camps de Dora. Comment ça a été décidé de faire ces espaces rouges, qui sont assez forts d'ailleurs dans la scénographie générale?
Alors en fait, la muséographie, elle a été justement construite autour de l'évolution de Werner von Braun. Si vous regardez bien, on part de ces jeunes étudiants universitaires allemands qui font des recherches sur ces fusées avant la guerre. Et puis, on suit chronologiquement le parcours de Werner von Braun au travers de la guerre avec les nazis, avec Hitler, puis avec les Américains, la conquête spatiale. Mais c'était important de montrer que derrière le succès rencontré par la mission Apollo en 69, on voit les images de Kennedy, de Werner von Braun à côté de cette fusée Saturne V immense. Là, il est il est revenu dans les médias, il est au sommet de sa gloire. Mais c'était important de montrer aux visiteurs que derrière ce fait évidemment mondial et reconnu, il y avait toute cette histoire de la déportation, de la mort à Dora, et dont Wernher von Braun et certains de ses collègues avaient une part de responsabilité. Et ces crimes de guerre auxquels il a sciemment participé, hein, il est venu à Dora, il a constaté la mortalité, les conditions de détention des déportés pour fabriquer cette usine et fabriquer cette fusée. Wernher von Braun n'a jamais été inquiété pour ces faits. Il est mort avant que cette histoire ne commence à sortir aux États-Unis et à être connue aux États-Unis. À un moment, à la fin des années 70, 80, où certains journalistes vont commencer à se poser des questions sur l'origine de ces dizaines d'ingénieurs allemands qui travaillent à la NASA et qui sont là depuis 1945.
Merci beaucoup. C'était Laurent Thierry, historien de La Coupole, le centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, situé près de Saint-Omer. Ce musée retrace l'histoire des premières fusées V2 jusqu'à la conquête spatiale. Pour plus d'informations sur ce musée de la Deuxième Guerre mondiale, un site internet www.lacoupole-france.com. C'est un sujet réalisé par Jean-François, Pierre-Charles et Honorine de Radio PFM.
C'était Laurent Thierry, spécialiste histoire du musée et planétarium de la coupole de Saint-Omer, au micro de votre émission bimensuelle Le Vulgarisateur de l'Espace. On enchaîne tout de suite avec votre chronique. Aujourd'hui, en lien avec votre reportage, parlons des débuts de l'astronautique, de la V2 du scientifique von Braun jusqu'au Sputnik soviétique. C'est une petite page d'histoire que je vous propose dans cette chronique.
Attention pour le décompte final.
3, 2, 1, 0.
Le vulgarisateur de l'espace.
Décollage.
L'appel du cosmos de Jules Verne à Sputnik 1.
Au commencement, il n'était qu'une poignée d'écrivains et de scientifiques géniaux. Jules Verne et Herbert George Wells l'imaginaient dans leurs livres. Constantin Tsiolkovsky en était persuadé. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Avec ces hommes, l'exploration de l'espace avait trouvé sa genèse. Vous connaissez probablement cette citation de Tsiolkovsky, un scientifique russe du début du XXe siècle, aujourd'hui considéré comme le père de la cosmonautique moderne. En 1903, il publie le premier traité de fuséologie, l'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction. Il y explique comment se libérer de l'attraction terrestre pour atteindre les portes de l'espace. Il imagine, entre autres, les fusées à étages comme peut l'être aujourd'hui Ariane 5, le lanceur européen, préfigure les stations spatiales et l'utilisation de combustibles liquides, oxygène, hydrogène, pour la partie propulsion. Quelques années plus tard, vers 1890, un ingénieur et physicien nommé Robert Goddard passe à la pratique. Il pense et conçoit les premières fusées à propulsion liquide. Il dépose des brevets, des analyses purement théoriques en 1919, publie aussi des articles, on le prend pour un fou. Il semble seulement lui manquer la connaissance enseignée tous les jours au lycée, critique le New York Times au sujet des théories du professeur Goddard. Sa première fusée s'élève néanmoins vers le ciel avec élégance et stabilité le 19 avril 1932. En Autriche, Hermann Oberth, éveillé par les romans de Jules Verne, rédige pour son doctorat une thèse intitulée « Des fusées dans l'espace interplanétaire ». En 1935, il réussit le lancement d'une fusée à combustible liquide et rejoint ensuite Peenemünde pour travailler sur les missiles balistiques de l'armée nazie. Il travaille aux côtés de jeunes ingénieurs allemands. Werner von Braun est le plus brillant d'entre eux. Le 3 octobre 1942, il réussit le tir de la première fusée militaire, baptisée V2, V pour vengeance. Elle franchit pour la première fois la barrière de l'espace, autour des 80 km d'altitude. À la chute d'Hitler, les armées alliées mettent la main sur les stocks de V2 ainsi que sur une précieuse documentation technique. L'objectif est clair, il faut rattraper le retard vis-à-vis de l'Allemagne dans le domaine du spatial. Les États-Unis exfiltrent von Braun pour le faire travailler à leur compte. Plus tard, c'est sur ses épaules que reposera la lourde mission d'envoyer des hommes sur la Lune dans le cadre du programme spatial Apollo. De leur côté, France et Grande-Bretagne récupèrent aussi des documents et pièces de V2. À l'Est, rappelé très affaibli après avoir passé 6 ans au goulag, le soviétique Sergueï Korolev fonde le programme spatial communiste. L'objectif est alors essentiellement militaire, créer des missiles balistiques de longue portée capables de transporter des têtes nucléaires d'un continent à l'autre et leur principale occupation. Depuis 1947, la guerre froide fait rage et avec elle, la course à l'espace. La dissuasion nucléaire est un bon prétexte, elle est d'ailleurs bien réelle, mais tous ces ingénieurs de par le monde n'oublient pas l'esprit de Jules Verne et des autres visionnaires. Les fusées à usage militaire d'aujourd'hui seront aussi capables d'emmener l'homme dans l'espace demain. Le 24 février 1949, une caméra est emportée à plus de 400 km au-dessus de la Floride par une fusée et donne le premier aperçu de la rotondité de la Terre. En cette belle journée de 1949, la joie du rêve réalisé est bien là, l'espoir de l'exploration du cosmos lointain dans un futur proche aussi. L'homme dans l'espace, la Lune, les stations spatiales, les objectifs ne manquent pas, mais les obstacles techniques à surmonter sont nombreux. Par exemple, un objet lancé en l'air retombe sur le sol, peu importe la force du bras qui le jette. La force de gravité terrestre le ramène au sol. Pour placer ne serait-ce qu'un satellite artificiel sans qu'il retombe, il faut une fusée puissante capable d'atteindre une vitesse au moins égale à 28 000 km/h. En comparaison, la voiture la plus rapide au monde roule à près de 400 km/h, pas plus. Cette vitesse, c'est la vitesse de satellisation, dite aussi première vitesse cosmique. Si la fusée porteuse augmente encore sa vitesse, son orbite s'ouvre et sort du puits gravitationnel terrestre. La vitesse minimale au-dessus de laquelle un projectile échappe définitivement à la gravité terrestre est la vitesse de libération, dite aussi seconde vitesse cosmique. Ce premier cap sera franchi en 1957 du côté soviétique par Sputnik 1. Dans les steppes du Kazakhstan près de Baïkonour, en cette nuit calme d'octobre, le bip-bip caractéristique de l'émetteur radio du petit satellite répond. L'ère de la conquête spatiale était bien là.
C'était le vulgarisateur de l'espace, une chronique de Jean-François Bourguin, réalisation Honorine Campagne.
Attention pour le décompte final.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
C'était Magic Fly par le groupe de New Wave Space. Donc c'était sorti en 1977. Nous sommes toujours dans cette émission, le vulgarisateur de l'espace.
Il est maintenant l'heure de votre documentaire. Dans cette dernière partie d'émission, nous le consacrons aujourd'hui au spationaute Jean-Loup Chrétien, pilote de chasse, puis spationaute au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Il est le premier français, le premier francophone et le premier européen de l'Ouest en 1982 lors de la mission franco-soviétique PVH à voler à bord de la station Salyut 7. Il est également le premier non-russe et non-américain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Un documentaire diffusé en partenariat avec Aerostar TV.
La Terre est une planète pas si grande que ça. Elle est enrobée d'une très mince pellicule gazeuse de couleur bleue que les terriens appellent le ciel. Au-delà du ciel commence l'espace et s'ouvre l'univers. Les terriens ont toujours voulu aller voir ailleurs et donc rêvé d'aller au-delà du ciel, et étrangement, la date du 12 avril s'est associée à ce rêve. En bas sur Terre, il y a de belles forêts, comme ici en Bretagne. Dans cette forêt, on peut parfois croiser un personnage dont l'histoire gardera le nom. Il est le premier explorateur de l'espace venu de cette région nommée France. Il s'appelle Jean-Loup Chrétien. Ce n'est pas le hasard qu'il a un jour installé en haut d'une fusée. Cet homme-là a toujours suivi le chemin de ses rêves. C'est un homme patient qui semble faire les choses lentement, mais étrangement, il va ainsi très vite vers les buts qu'il s'est fixés. Il y avait des marins dans la famille Chrétien, mais petit garçon, il voyait passer des avions dans le ciel et ça lui avait donné des idées. Aujourd'hui, il continue de vivre son rêve, maître à bord de son petit Bonanza personnel. Comme dans toute histoire, dans l'histoire de Chrétien, il y a un début.
J'étais au collège Saint-Charles à Saint-Brieuc et un jeudi après-midi, j'étais chargé d'amener un colis au curé d'une paroisse voisine. Puis je passais par le terrain d'aviation de Saint-Brieuc avec mon vélo, mon paquet sur le pont de bagage. Puis là, il y avait un Jodel D-112 qui mettait en route. Puis je regardais avec les yeux écarquillés. Puis le pilote m'a aperçu, il a coupé. Il m'a fait signe. Ça t'intéresse de venir faire un tour ? Je me suis retrouvé, j'ai laissé mon vélo, le colis. Je crois que c'est l'attrait de la troisième dimension. C'est rentré très tôt dans mes gènes et c'est resté là, monter, quitter le sol. Tout ce qui quitte le sol est bon. On commence à voir le sol s'éloigner. On est dans un autre monde.
Le 12 avril 1961, un jeune pilote militaire russe nommé Yuri Gagarin devint le premier des premiers. Il avait découvert l'art de voler dans un aéroclub avant de devenir pilote de chasse, puis avait porté son nom sur la liste des candidats à une fabuleuse aventure. L'URSS voulait être la première nation à faire voler un homme dans l'espace. La sélection, une vraie affaire d'État, fit sortir quelques noms comme celui de German Titov. Mais le premier allait être Yuri Gagarin.
C'était un homme très attachant, souriant et très avenant. Il avait un contact humain de très, très grande qualité et certainement un des éléments qui a fait prédisposer à cette fonction de premier.
La préparation de Gagarin dura des mois. Au départ, on ne savait rien des réactions d'un homme à cet environnement, impliquant des accélérations énormes, l'absence de pesanteur et aussi le stress et même la peur d'aller se transformer en météore. Le vaisseau dessiné pour ce voyage s'appelait Vostok. C'était un habitacle monoplace, une cabine minuscule juste assez grande pour contenir un type en scaphandre. Le premier homme de l'espace allait donc être Gagarin et Titov était la réserve si quelque chose devait empêcher Gagarin de faire le vol. Dans la nuit du 11 au 12 avril, dans une petite datcha perdue dans les steppes du Kazakhstan, on prépara Gagarin et Titov. À 30 km de là, une fusée attendait. Baptisée Semyorka, ce superbe lanceur était l'œuvre d'un génie, l'ingénieur Korolev. Au petit jour, on embarqua Gagarin et Titov dans un petit bus qui s'enfuit doucement vers le pas de tir de Baïkonour. Au pied de la fusée, les autres candidats cosmonautes, ceux qui voleraient ensuite, attendaient Gagarin. Le reste se passe de commentaires. Un homme seul était donc encapsulé au sommet d'un engin phénoménal et fragile, alors que l'équipe de tir était protégée dans un bunker enterré à des centaines de mètres de là. Puis à 9h07, heure de Moscou, minutes après l'allumage, Youri Gagarine découvrit le premier ce que ça fait de quitter la Terre et de s'en aller voler en orbite au-delà de l'atmosphère. Puis il redescendit, traversa le ciel comme un météore et regagna la Terre des hommes. En un tour de Terre, il était devenu un héros historique. On fit de lui un symbole politique. Mais son aventure déclencha chez un autre jeune aviateur militaire, Jean-Loup Chrétien, une véritable vocation. À partir du 12 avril 1961, Jean-Loup Chrétien décida de voler un jour dans l'espace. Le 25 juin 1982, après un accord scientifique entre l'URSS et la France, après une sélection inspirée du processus utilisé pour Gagarine, après 2 années de préparation en compagnie d'un autre candidat, Patrick Baudry, Chrétien embarqua à son tour dans une Semyorka. Ce sera PVH, premier vol habité, où il séjournera dans la station Salyut, après avoir découvert à son tour l'épreuve du lancement.
Bah, le Soyuz, c'est une cocotte minute. C'est un ascenseur en forme de cocotte-minute. C'est bien conçu, c'est très bien conçu, c'est simple et c'est très robuste, typiquement russe de l'époque. Et c'est lent, ça s'apparente plus à un sous-marin, d'un bateau qu'un avion. À un moment donné, les moteurs s'arrêtent, tout devient vivant, les bouquins, les stylos, tout ça, ça se met à flotter dans tous les sens. Bah, c'est réussi.
Puis 6 ans plus tard, Chrétien revola sur la mission Arakats. Et alors, il devint le premier non-américain et non-russe à effectuer une sortie dans l'espace. Mais Chrétien a une autre passion, l'orgue. L'orgue, c'est une sorte d'avion virtuel qui permet de voyager dans la conscience du sacré. Ça peut sembler paradoxal, un aviateur taillé dans le réalisme technique qui soigneusement explore les trajectoires de Bach ou de Jehan Alain.
S'il peut bien arriver de trembler quelque part, c'est pas en haut d'une fusée, c'est pas dans un avion, mais c'est bien dans cette situation. Ben c'est le trac, c'est le fameux trac. Et donc moi, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. On est content quand ça se termine.
20 ans jour pour jour après le 12 avril de Gagarine, une fabuleuse machine se préparait à s'envoler vers l'espace sur le pas de tir 39 de Cap Canaveral en Floride. Columbia, la première des navettes spatiales de la NASA. Pour réaliser ce vol, un équipage, Bob Crippen, et surtout le plus expérimenté de tous les pilotes spatiaux de l'histoire, le phénoménal John Young.
John avait beaucoup d'humour. Ses réponses, ses commentaires, ses déclarations étaient toujours empreintes de son humour. Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Les critiques, il n'hésitait pas une seconde. Tous les lundis matin, au briefing des astronautes, John Young était là. Et il mâchait pas ses mots, et heureusement, parce qu'on avait besoin de quelqu'un de son expérience et de sa trempe pour dire les choses que d'autres n'osaient pas dire.
La navette spatiale avait l'ambition d'être le premier véhicule hybride de l'histoire du ciel, capable de s'envoler comme une fusée, mais de revenir sur Terre comme un avion. Pour certains, c'était une ambition contre nature. Du coup, ce vol, baptisé STS-1, restera l'un des vols les plus aventureux de toute l'histoire du ciel.
Houston, you're going 40. Capcom, let's tell them all the calls are going to be a tad early because of the hot first stage. Columbia, you're looking a little hot. All your calls will be a little early.
Okay. Damn, that looks good here.
Columbia, Houston, you guys did so good, we're going to let you stay up there for a couple days. You're going for on orbit.
Okay.
STS-1 débuta de manière parfaite. Dans son rôle de fusée puis de vaisseau spatial, la navette apparut comme une réussite. On pensa alors qu'on avait inventé l'engin spatial parfait, le cargo de l'orbite terrestre. Mais il restait à revenir sur Terre après avoir traversé l'atmosphère en y laissant sous forme d'un sillage de flammes infernales le plus clair de l'énergie accumulée lors du lancement. On n'avait jamais ramené un vaisseau spatial autrement que sous un parachute. Et avec STS-1, on prétendait même piloter la rentrée comme on pilote un avion, mais à plus de 25 000 km/h. Et John Young se prépara à vivre l'un des plus grands moments de pilotage jamais vécu. Et tout se passa bien.
Columbia, Houston's here. How do you read?
Glenn Graham, we're doing Mach 10.3 at 180 AS.
And we couldn't agree more, John. Your state vector's good. We've got a good data in-house.
Required,
okay, I'll have to
go. Columbia, you're really looking good. Right on the money. Right on the money. And turning on the final, your winds on the surface are calm.
Back on the wind.
You're right on the glide slope, Columbia.
C'était incroyable.
Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful.
Et John Young, qui pourtant était allé deux fois jusqu'à la Lune, après avoir dégringolé la passerelle, montra à quel point il n'en revenait pas d'avoir mené à bien ce vol. Un vol sans joker, car la navette ne permettait pas la survie de son équipage en cas de problème, comme on allait le constater plus tard. L'Europe s'impliqua dans le programme américain de la navette spatiale et Jean-Loup Chrétien se retrouva à Houston. Il devint le premier astronaute non américain engagé par la NASA et joua un rôle primordial dans les relations entre Russes et Américains, désormais lancées dans la construction conjointe de la Station spatiale internationale. Et en 1997, il se retrouva une troisième fois lancé vers l'orbite à bord de la mission STS-86 effectuée par la navette Atlantis. Chrétien est donc le seul homme de l'espace à avoir pratiqué de l'intérieur l'aventure spatiale russe et l'aventure spatiale américaine dans le sillage des Gagarine et Young. Il a volé en Soyouz et en navette spatiale, travaillé et vécu dans les stations orbitales Salyut et Mir, passé une belle partie de sa vie à la Cité des Étoiles près de Moscou et aussi à Houston. Personne d'autre n'est plus qualifié que lui pour porter un jugement sur ces explorateurs du plus haut ciel qui décollèrent un 12 avril.
Là, ils se sont retrouvés dans une situation de véritable pilote d'essai, mais d'une machine hors du commun et vraiment très loin de tout ce qu'ils avaient pu avoir à faire voler avant. Et c'était gonflé.
C'est sur ce documentaire que se clôt votre émission Le Vulgarisateur de l'Espace. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve au prochain numéro. Honorine, avant de se quitter, peux-tu nous rappeler les heures et dates de diffusion de cette émission ?
Cette émission bimensuelle est à retrouver les 2e et 4e semaines de chaque mois. Les diffusions sont le lundi à 22h30, le mardi à 16h, le mercredi à 4h du matin et le samedi à 14h.
Merci Honorine, à bientôt.
À bientôt.
Attention pour le décompte final.
4, 3, 2, 1, 0.